Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer par rapport au latin? Il y a eu là, dirait-on, une espèce de cassure, parce que le latin, lui, avait des cas. En fin de compte, l'italien, c'est un latin qui a perdu ses cas. Comme le français, c'est un latin qui a rencontré des germains, qui a donc laissé tomber tout ce qui se trouvait derrière la syllabe accentuée. Comme l'espagnol, nous aurons l'occasion de le redire, c'est un latin qui a rencontré des arabes. Bon, et ici, c'est un latin qui a perdu ses cas et qui s'est un peu affadi. Et c'est là que Dante va jouer un rôle absolument unique. C'est que lui est encore dans la force avant l'affadissement de la langue italienne. Et vous connaissez alors la dureté de « O terra d'Italia, di dolore ostello », auberge de douleur. Nave senza nocchiere in gran tempesta. Non donna dei province, ma bordello. Tout d'un coup, au lieu d'être la reine des provinces, tu vas en devenir le bordel. Et ça, politiquement, mais peut-être aussi, je ne sais pas, on pourrait se poser la question presque linguistiquement. C'est-à-dire qu'il va épuiser, dans la Divine Comédie, pratiquement toutes les ressources d'une langue. Toutes les ressources, qui ne va pas avoir de possibilité de véritable développement. Alors, nous avons parlé de cette hystérisation, mais il fallait peut-être ajouter qu'il y a en même temps donc une volupté. Et ça, c'est très différent d'allemand. Il n'y a pas de volupté en allemand. Il y a donc des forces qui sont des dieux, qui sont partout. Giordano Bruno nous l'a expliqué. Mais en même temps, tout ça est pris dans un regard voluptueux qui est d'une crudité terrible. Donc complètement différent du français. Il y a quelques jours, on devait expliquer à la télévision française à midi ce que c'était qu'une Vénus Callipyge. Alors, William Lémergie a expliqué, et vous voyez, c'est donc une Vénus qui a, au bas du dos, enfin, vous me comprenez, il a des rondeurs, etc. Donc ça, c'est le français, donc, va toujours devoir tourner, en quelque sorte. La langue ne peut pas érotiser. Au contraire, ici, nous allons avoir une crudité extrême. Une vision du corps. Je vous renvoie à Malaparte, à la Pelle, tous ces gens qui payent pour aller dans un bois, c'est important que ce soit un bois, pour aller voir un corps, pour aller voir, aller se mettre devant quelque chose qui est en quelque sorte sacré et qui me reconduit à quoi? À la situation fondamentale de l'italien qu'on pourrait appeler une folie, comme l'anglais, mais c'est une folie de santé. Une folie reprise dans la santé. On va devoir apporter deux ou trois autres nuances dans ce moment. Fellini qui dit « Je vais régulièrement dans des asiles de fous. Mais je ne peux pas rester trop longtemps. » Parce qu'effectivement, il y a une complicité. C'est Umberto Eco qui dit, moi, on lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour finir ?»« Ben, je veux comprendre la bêtise. » Je crois que Fellini est plus profond. « Je veux comprendre la folie. » Tiens, vous direz, et l'anglais alors? Eh bien justement, l'anglais ne veut pas comprendre la folie. L'anglais veut être dans la folie. Il veut participer à la folie. Tandis que l'italien, c'est un latin, quoi. Donc il veut comprendre la folie. Donc ce n'est pas le catastrophisme allemand. Et il y a donc une espèce de volonté de l'obscène. Les choses ont une force. Il faut oser les regarder. Il faut oser les regarder absolument toutes. Elles ont une whim, disait Cicéron. Alors, qu'est-ce que c'est que le langage? C'est la force de ces choses, d'un sexe qu'on regarde, par exemple, et qui rentre dans le langage et qui va se transformer dans le langage en virtu, le formidable mot de Machiavel, qui est intraduisible en français. Virtu, qui est là donc, c'est la vertu, mais ce n'est pas du tout la vertu. Hein, c'est toute la force qui est à la fois virilité et qui est en même temps vis, au sens de vis numeros edicendi de Cicéron, dans lequel il y a évidemment une telle puissance qu'il y a une grandeur. Quand à un moment, je ne sais plus quoi, Michel-Ange dit, on lui demande pourquoi il a fait quelque chose, c'est pour montrer que ça, la sua arte era grandissima. Et d'où, évidemment, nous nous trouvons en présence de locuteurs qui vont donner une peinture extraordinaire. Si la langue se met à tourner sur elle-même, la peinture, elle, va pouvoir donner, l'architecture, va pouvoir donner toute cette pression qu'on a dans les maisons de Florence, où chaque pierre littéralement pousse de l'intérieur. C'est ce que Stendhal aime. Hein, quand Stendhal dit, en France, tout est politique. L'amour même est politique. Ça veut dire, l'amour même est parlé. tout d'un coup en Italie, je me trouve devant quelque chose d'autre, et que j'ai appelé, pour bien faire comprendre, l'obscénité, qui peut prendre la forme de celle de Malaparte d'une vision, ou qui peut prendre celle de Boccace. Donc Boccace, c'est le contraire de la remarque tout à l'heure de la calipige, dont on pourrait dire tout simplement qu'elle a de belles fesses. Donc Boccace, une fesse est une fesse. Et il est exactement, donc, si vous voulez, le contraire de La Fontaine. La Fontaine, quel est l'art du conteur français? Et c'est donc depuis La Fontaine, mais c'est comme ça encore aujourd'hui. C'est arrivé à parler de choses considérées comme scabreuses, donc entre guillemets, qui ne sont pas scabreuses du tout, mais enfin, bon, considérées par la langue française comme étant scabreuses. Et par exemple, en français, vous ne pouvez pas employer le mot femelle. Vous êtes a human being, a female human being. Vous pouvez dire ça comme de Madame Margaret Thatcher. Ça n'a rien d'offensant en anglais. Donc, tandis que le mot femelle en français, Malherbe, qu'est-ce qu'il a fait? Supprimer des mots. C'est ça l'Académie de Tendelle. C'est supprimer les mots de Montaigne, par exemple. Comme Casanova n'est pas Diderot. Diderot parle des bijoux indiscrets. Vous voyez, c'est des bijoux indiscrets. On est autour, c'est glissé. C'est... Non, Casanova, bon, il sait ce qu'il fait. Il vous explique ça. Donc, tout doit sortir. Il n'y a pas de morale, d'ailleurs. La morale est alors une constatation physique. Quelqu'un à qui je parlais de ces émissions à propos de l'italien me disait, oui, un très joli exemple, c'est la blague du gars, on présente une fille, on dit qu'elle a fait toutes sortes de choses, vous savez, elle a fait du banditisme, etc. Et l'autre me dit, mais non, oui, tout ça ne m'intéresse pas, hein. C'est la moralita. La moralita. Alors on continue, on dit, oui, mais vous savez, elle a couché avec tous les gars possibles, mais j'en ai dit, mais ça m'est égal. La moralita. C'est-à-dire de savoir, est-ce qu'elle a un hymen ou est-ce qu'elle n'en a pas? Non, il n'y a pas de moralité au sens intérieur. La moralité, c'est ça, la moralité. D'où l'extraordinaire plaidoyer de l'avocat italien qui explique que, bon, il défend quelqu'un qui a violé, et il explique que le viol est la marque suprême de respect que l'on peut donner à une femme. Personne ne rit dans l'auditoire. C'est énorme, évidemment, pour nous, c'est énorme. Mais c'est exactement l'Empire romain. C'est le satyricon. Le Fellini est parfaitement capable, hein, quand tu dis, bon, Rome, c'est la meilleure ville pour attendre la fin du monde. Ou quand il y a un gars qui vient lui parler de problèmes sociaux et de droite ou de je ne sais pas, il n'y a pas de droite, mais enfin, disons, de problèmes sociaux, Fellini qui dit, vous me fatiguez. Et ça introduit la notation que je veux vous donner après. C'est une langue, si bizarre que ça paraisse, c'est une langue d'aristocrate. Si on veut comprendre l'Italie, il faut se rendre compte que c'est sans doute le dernier pays au monde où il y a encore de véritables aristocrates. C'est le type qui est vraiment le maître, c'est-à-dire qu'il jouit par lui-même. Et donc, le tailleur de cheveux peut être un aristocrate. Le coiffeur italien est un maestro dei capelli. C'est un maestro. Et c'est lui qui le fait. Et il se gonfle dans ça. Maîtrise en quelque sorte. D'où à la télévision italienne, ces films que nous ne connaissons pas à la télévision française, où vous présentez des grands aristocrates, donc des super PDG italiens, Ferruzzi. Vous pourriez présenter comme ça des Benedetti, puisqu'on le connaît mieux. Mais par exemple, Ferruzzi, ce sont des émissions d'une heure, où on vous présente ce personnage. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout d'un coup devant vous un empereur romain. Un vrai empereur? Vous voyez, Caligula, et on présente. Alors vous voyez l'Empire fantastique, vous voyez des hélicoptères qui passent sur des pays entiers, qui sont gérés. Il s'agit de faire de la gestion de tout ça. Mais si vous présentez un PDG français, je ne vais citer personne, mais ce sont des messieurs tout le monde et qui essayent de passer comme monsieur tout le monde. Ici, pas. Ce sont de véritables empereurs romains, avec tout ce que ça implique à certains moments de folie, et que, je répète, Fellini par là, qui n'est pas très aimé des Anglais. Et là, c'est très intéressant de couper entre les deux types de folie, donc. Hein, particulièrement des Américains. Le Herald Tribune a été très longtemps très sévère pour tous les films de Fellini. Et qui est donc cette formidable indépendance, parce que comme me disait un jour une Romaine, vous savez, nous autres, les Romains, nous avons vu passer le monde depuis 2000 ans. Il n'y a personne qui peut dire ça. Il n'y a personne qui peut dire « Cicciolina Catilina ». C'est-à-dire en disant « Le langage que je vous parle est celui de Cicéron ». Alors, évidemment, cette langue où il y avait des longues et des brèves, va donner un miracle, et où il y a peu de littérature, il y a une peinture colossale, va donner un miracle. C'est que figurez-vous qu'il y a une autre chose tout aussi bizarre, déconcertante, c'est que brusquement, dans un certain pays du monde, là, une petite région du monde, naît une musique vers les années, surtout à partir des années 1600, où les êtres humains font 1, 2, 3, 4. Complètement fou. Ou 1, 2, 3. N'ont jamais fait ça. Et 1, 2, 3, 4 de manière impitoyable. Et il va y avoir des rondes, des blanches, des noires, et c'est chaque fois la moitié de la précédente. Des croches, des doubles croches, des quadruples croches. Et donc, brusquement, l'italien va pouvoir entrer là-dedans. Notte giorno faticar, perché nulla s'aggradir, piove vento sopportar, a mangiar male mal dormir, voglio fare il gentiluomo. C'est-à-dire qu'une coïncidence, comme ça peut arriver dans l'histoire humaine, une incroyable, improbabilissime coïncidence, une langue où à peu près vous avez des syllabes donc qui sont le double, la moitié des autres, sortant du latin, et une musique qui fait la même chose. Imaginez que ça se soit passé, je ne sais pas quoi, avec n'importe avec la musique chinoise, ça ne peut pas marcher. Non, ici, tout d'un coup, confluence, et vous allez avoir l'opéra. L'opéra qui est justement l'endroit où par excellence on se gonfle. La voix est avant tout un gonflement, un problème de souffle et de maîtrise de souffle. Alors, on va avoir non seulement l'opéra, mais nous allons avoir un moment musical important. C'est autour des années 1600. Et quelle va être la caractéristique de cette musique des années 1600, celle de Vivaldi, c'est qu'elle va à peu près avoir les mêmes propriétés que Giordano Bruno, que tout le monde italien, c'est-à-dire qu'elle ne se développe pas. La musique de Vivaldi est une musique extraordinaire, mais c'est une musique de l'éternisation. Il y a quelque chose qui s'immobilise et qui se pénètre très fortement, comme un tableau vénitien d'ailleurs, mais qui ne va pas du tout donner, imaginons le développement de la dernière sonate de Beethoven, nous sommes absolument ailleurs.
Nous terminons aujourd'hui cette évocation de quelques langues européennes, Henri Van Lier, avec l'espagnol. Qu'est-ce qui pourrait caractériser, pour commencer, l'attitude fondamentale du locuteur espagnol ?
Les locuteurs espagnols, c'est d'abord, pourrait-on dire, des latins qui ont rencontré des arabes. Alors bien sûr, c'est un aspect un peu superficiel, c'est-à-dire qu'on emprunte des mots arabes, almacen, Al-Mouskar, c'est assez joli parce que c'est le musc, musquer quelque chose. Et le musc est par excellence l'odeur arabe. Et on pourrait dire peut-être déjà d'avance que ça va être une des odeurs de l'espagnol. L'espagnol est une des langues les plus musquées. Mais ça c'est encore un peu extérieur. C'est que cette rencontre avec le monde arabe va, en même temps sans doute que l'influence du pays, déterminer l'attitude de l'homme espagnol. Partons, mais comment est-ce qu'on dirait, je ne le sais pas, en italien, quelque chose comme non lo so? Les portugais, prenons-les justement les espagnols par l'autre côté, non sei bem, vous m'excuserez, je suis brésilien de naissance, donc je pousse un peu vers le Brésil, mais en Espagne, ne le sait. C'est d'une sécheresse. C'est d'un redressement. Et surtout, c'est d'un retrait extrême. Et on pourrait faire d'ailleurs à peu près toute l'analyse des langues que nous avons faites jusqu'à présent à partir d'un mot, c'est-à-dire la troisième personne du verbe être. En français, c'est « est ». « Est », dit comme ça, tout naturellement. En anglais, c'est « is ».« Is », avec tout le bruitage anglais. En allemand, c'est « ist ». Et c'est bien ça, « ist schön », comme disait Mozart. En italien, c'est, ça peut être « è vero », avec toute l'ouverture italienne. Et ici, « es », « f » même, avec très souvent, légèrement, la langue entre les dents. C'est-à-dire que tout va être tout le temps poussé vers l'extérieur, mais rentré, en quelque sorte. On pourrait presque dire que c'est le contraire de l'allemand. L'allemand, hein, il pousse vers l'intérieur et puis ça craque, brechen, comme nous disait Nietzsche. On va pousser pour atteindre l'élément qui, lui, ensuite, va faire exploser. Ici, on pousse vers le dehors, mais tout est, chaque fois, retenu. Ça sera l'attitude arabe. L'arabe qui est dans un corps parfaitement fermé, chez lui de consonne. Un de mes amis arabes me disant « Mon corps est si parfaitement fermé par les consonnes que je parle que je peux apparaître nu, je suis toujours habillé. » Mais, pour avoir cette espèce de rétention, donc, je ne peux pas dire un B. Un B, c'est généreux, un B, B. Je ne peux pas dire non plus un V. C'est trop généreux aussi. Ça part, vraiment. Donc, je vais dire B, Bibliothèque. Bibliothèque. Quelque chose qui est avec les dents sur la lèvre inférieure. Les dents vont jouer un rôle très, très important, par exemple, dans le rapport OS. Mais je ne pourrais même pas avoir un H aspiré, parce qu'un H aspiré serait encore bruité les choses. Ce serait une perte. Il y aurait une perte. Quand je dis human, il y a une perte de moi-même, là, dans un abandon en anglais. L'anglais est celui qui s'abandonne le plus dans le langage. Mais je pourrais avoir la rota. Parce que dans la rota, il y a ce départ et qui revient directement sur soi. Et enfin, la position du R, il n'est pas question, évidemment, de faire un R grasseillé français, un R, là. Il n'est pas question de faire le R, R anglais. Ça ne pourra pas être le R de l'hystérisation italienne qui revient sur soi en se gonflant, et ce sera donc un R roulé, mais devant, R. Peu de dynamique de la phrase. C'est une des choses qui frappe tous les locuteurs du monde entier. Si vous entendez un groupe qui parle espagnol, il y a une apparente, en tout cas, monotonie. Et un très grand rôle des chutes, c'est-à-dire d'un certain dédain. Et dans une grande égalité des syllabes, ça va pouvoir faire une espèce de rafale lente mais impitoyable, et je trouve quand même extraordinaire que la première phrase de « Cent années de solitude » ce soit « Muchos años después », plusieurs années par après, « Frente al peloton de fusilamiento ». Face au peloton d'exécution. Mon père se rappelle que. Et cette situation, le peloton d'exécution, c'est la rafale qui vient. C'est une rafale qui vient sur vous, ou c'est une rafale qui se passe et qui vous cadre. Nous avons titré le grill. Le grill, c'est quelque chose de carré. On est pris dans un carré. Alors j'en ai parlé, bien sûr, à des Espagnols. Alors ça va très vite, les associations suivaient. Il y avait évidemment le grillage. Je suis sur un grill. C'est le seul pays où le château royal soit un grill, le grill de Saint-Laurent, l'Escurial. Donc le bâtiment le plus important d'Espagne est un grill horizontal. Mais presque toute la construction espagnole est le grill vertical. Le grillage, on entre, on descend en Espagne, on arrive à Burgos, la première chose extraordinaire qu'on voit autour de soi, ce sont de gigantesques grilles dans la cathédrale de Burgos. Aucune des cathédrales au monde ne possède le nombre de grilles des cathédrales espagnoles. Et bien sûr, si vous faites une excellente affiche sur l'Espagne, il suffit souvent de mettre une fenêtre et le grillage. Mais alors, un autre ami espagnol a immédiatement repris. Le peintre Juan Martí m'a dit « Ah, mais c'est la grillade !» C'est la grillade. Et il était là, faisant sauter sur place. C'est ça qui est important. Il y a quelque chose qui saute, mais qui saute, qui frappe du pied, mais sur place. La grillade. Et là, on aurait dû pouvoir l'enregistrer. C'était absolument stupéfiant. C'est lui qui avait répondu à la reine du pays où il est accueilli, qui lui demandait « Vous êtes espagnol, monsieur ?» Et qui lui a répondu, parce que c'est tout le programme de la phrase, nous allons avoir une phrase espagnole, « Catalan, catalan, por nacimiento. Et espagnol, por obligación. » Vous avez toute la situation, bon, catalane, mais vous avez la rafale, la fusillade, le peloton d'exécution. Que peut être une phrase espagnole, qui en même temps, bien entendu, peut être une grande tendresse, hein, mais qui est toujours une tendresse à l'intérieur de ce grillage que nous allons trouver peut-être dans un instant, ou bien je vais même le dire directement, dans la chaise de supplice. On pourrait reprendre toutes les langues que nous avons étudiées au point de vue du supplice que les locuteurs appliquent. Quel est le supplice du locuteur espagnol? C'est plus typique, et d'ailleurs tout de suite c'est un espagnol qui me l'a cité, c'est la silla, la chaise de hierro, de fer. C'est-à-dire que le condamné est assis sur une chaise, le dos est en métal, on lui passe une bande d'acier autour du cou et on serre impitoyablement. C'est toute l'Espagne. S'il y a des hierro dans sa force fantastique, dans son intensité, dans son obstination, en même temps que sa tendresse. Et alors, la France étant tout entière, je crois, résumée et impeccablement dans la guillotine. Il y a la droite, il y a la gauche, c'est impeccable, ça descend verticalement entre les deux. C'est parfait, c'est le tapis plein de la mort, la guillotine. Et on pourrait continuer, bon, à faire une étude, hein, la pendaison anglaise, etc., et chaque fois voir quelles sont les modalités. Donc, nous nous trouvons dans ce pays dont le vocabulaire va avoir une tension aussi. Répondre, c'est déjà contestar. Si je réponds, c'est contestar. Si je regrette, c'est con disgusto. C'est très fort. Et justement, embrasser, alors l'inverse, l'embrasso, c'est une bourrade. Et l'embrassement espagnol, entre hommes, comme souvent parfois déjà dans le sud chez nous, mais, hein, est une bourrade. Et vous pouvez avoir alors cette expression très très curieuse où on parle du ciel. Como me gusta tomar el sol. Bon, on prend comme j'aime prendre le soleil. Con este cielo tan azul. Pour parler du ciel bleu. Este cielo tan azul. Il y a en même temps une fermeture, une détermination absolument terrible. Et que vous allez retrouver, tout donc tient dans les langues, que vous avez au complet dans la guitare. C'est exactement le son de la guitare, qui est également un instrument de torture. On pourrait dire que c'est la silla de hierro. C'est l'instrument le plus difficile à jouer. Un instrument épouvantable. Parce qu'il y a une commande terrible des doigts, et le son, on s'attendrait à, j'allais dire, après une commande pareille, à ce qu'on ait un son énorme. Non, exactement. Donc, l'espagnol et la guitare, comme l'italien et le violon. Bien sûr que si vous vous gonflez, si vous voulez vous répandre dans l'égalité, ben c'est le violon qui va avoir le son le plus régulier, avec toutes les viols de gamme possibles et imaginables que vont inventer les Italiens. Vous êtes exactement dans le monde italien. Et bien entendu, l'instrument allemand par excellence va être l'orgue. Pour finir, c'est cet instrument-là qui peut véritablement descendre dans les éléments des choses. Donc, et aussi, si vous voulez alors tenir votre corps, ben, vous allez le tenir comme dans le tango, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de mouvements souples, ronds, liés, mais des mouvements dans lesquels il y aura des cassures. Sur la guitare, il y a un très beau texte de Borges, où il dit « la mano », la main, « se demora en las cuerdas », reste en repos morare, c'est remarquable, « se demora en las cuerdas », sur les cordes. Y las palabras, et les paroles, cuentan menos, comptent moins, que los acordes, que les accords. C'est une théorie complète de la poésie, d'ailleurs. Hein? Les mots, comme mots, pas très importants. Ce qui est intéressant, c'est l'accord que fait le mot. Hugo savait ça parfaitement, bien entendu. Tous les grands poètes ont su ça. Et tiens, pour le dire en passant, d'où les locuteurs français ont toujours fait le désespoir des poètes français. À peu près tous les poètes français ont déclaré que le locuteur français n'entend absolument pas les déflagrations qui peuvent se produire à l'intérieur d'un langage. Et ici, vous le voyez bien, « y las palabras cuentan menos que los acordes ». C'est dans les milongas de Borges. Alors, lorsque on veut saisir cette situation, je vais reprendre quelque chose que me disait un peintre espagnol mort depuis, Pedro de l'Águila. Et il présentait les choses comme ceci. Chez un Français ou dans d'autres peuples, vous avez les Allemands aussi, la force monte de la terre. Le Balzac de Rodin. Il est là, ses deux jambes sont ouvertes, il a sa grosse panse de Balzac, la comédie humaine, et puis tout monte du sol. Et ça vient et ça sort en langage. Donc, l'énergie monte de la terre. Chez les Arabes, ce n'est pas une énergie qui vient, c'est un mirage. Mais ce mirage descend du ciel. Et les Espagnols le connaissent très bien puisqu'ils l'ont à l'Alcazar. L'architecture arabe part du haut, de la hauteur du mirage, et rejoint le sol comme elle peut. Pour pasticher une formule de Le Corbusier. Bon, rejoint le sol comme elle peut. Donc, ça part du dessus. L'Espagnol ne peut faire ni l'un ni l'autre. Il ne peut être ni ce mirage qui descend du ciel, ni cette énergie qui vient de la terre. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Sur la terre maudite sur laquelle il se trouve, il ne peut faire qu'une seule chose, c'est frapper la terre du pied. Et c'est ce que nous avons déjà rencontré, la guitare, le tango, mais c'est encore plus net dans le flamenco et particulièrement dans le zapateado. Le zapateado est vraiment toute l'Espagne, c'est-à-dire c'est cette manière de rentrer le ventre. On supprime le ventre, tant qu'il y a moyen. On se dresse, et puis tout part des pieds, les pieds claquent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'on va sauter en l'air. Non, on ne saute pas en l'air. On ne quitte pas le sol pour venir. On est plaqué au sol. On reste dans le grill. On reste dans le grillage. Et on est pris d'ailleurs, maintenant nous retombons sur les grandes formules, nous sommes pris dans le todo y nada. Dans le tout et rien. Ce n'est pas tout ou rien. C'est un tout et rien. Je me souviens, c'est à la cathédrale, je crois, de Tolède. Et alors là, une tombe, et puis, hic est homo, et pulvis, ça va, on connaît, hein, ici est l'homme, ici est la poussière, ça va. Mais on est bien en Espagne, et on ajoute en dessous, et nihil, et le rien. Alors, cette image, cette situation, où on frappe sur la terre, va s'exprimer à la limite, je dirais, dans les jurons espagnols. L'Espagnol a sans doute les jurons les plus terribles du monde. Vous en connaissez un qui nous ramène bien à la terre, avec le fameux cago. Je chie. En sus muertos. Sur tes morts. Hijo de la grande puta. Fils de la grande pute. C'est cette violence. Il y a la terre, et la terre c'est les morts. Et qu'est-ce qu'on fait? On les frappe, ou on chie dessus. C'est-à-dire, on va se trouver dans une situation très particulière. Je vais revenir justement au peintre Juan Martí, dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux espagnol por obligación, et à qui, bon, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui fait des tombeaux, un peintre Michelino, il fait des tombeaux, elle fait un monument à ce Juan Martí. Et elle lui propose, elle lui montre ça, et elle lui dit, évidemment, vous êtes vivant, je ne vais quand même pas appeler ça un tombeau. Il dit non, après quelque temps, hein, bon, réflexion, j'ai assisté à la scène. Et non, c'est un tombeau, c'est mon tombeau. Alors bon, cérémonie où il vient apporter des fleurs devant son monument, son tombeau. Et alors cette scène qui est donc tout à fait éclairante et qui va nous apporter quelque chose d'essentiel au point de vue de la situation de l'homme espagnol. Bien sûr, il fait un discours. Et à certains moments, il y a des rires. Ce sont des locuteurs français qui sont là. Il y a des rires. Et alors, à un moment, il sort cette phrase qui est tout à fait la phrase éclairante. Tout d'un coup, il parle en français. Et il dit, mais quoi ? Ces gens-là ne se rendent pas compte que je suis en train de mourir ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est très, très fort. Parce que pour lui, quand il mourra, c'est rien, ça. Ça, c'est la dépouille. C'est le nada. C'est le pulvis. Mais ce qui est important, c'est ce moment où il se trouve devant son tombeau peint. C'est-à-dire que pour l'espagnol, le symbolisme tient lieu de réalité. La réalité n'existe pas pour l'espagnol. C'est un nada pour finir. Et la seule chose qui existe, c'est ce symbolisme. C'est le symbolisme du cago en sus muertos, du je chie sur tes morts. Ce que je ne fais pas, mais en te le disant et en disant que tu es le hijo de la gran puta, non seulement je t'injurie, ça c'est rien ça. C'est pas important de t'injurier. C'est des bêtises, ça nous sommes tous, nous n'existons pas. Mais ce qui existe, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement les mots qui sont dits ici et l'attitude humaine qui est donnée ici. Et je me souviens, je signalais à Paco Rabanne, disant, un de mes amis espagnols disait, qu'est-ce que c'est qu'un espagnol ? C'est un vêtement qui essaye de rejoindre un corps. Et Paco Rabanne avait exulté en disant, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas de fusion. Le vêtement, eh bien, ce symbolisme réel qui est la seule réalité. Alors, c'est là que je suis quand même assez sidéré de voir que, devant un poème de Saint-Jean de la Croix, parce que, bon, bien entendu, les Espagnols vont quasiment pas avoir de littérature avec ce que je viens de vous dire. Quasiment pas. Bon, il y a un Don Quichotte et deux, trois choses comme ça. Bon, mais qu'est-ce qu'il va y avoir ? Des mystiques. Ah oui, des mystiques. Il va y avoir Saint-Jean de la Croix. En una noche oscura, dans une nuit obscure. Con ansias, en amores, en flamada. Avec des anxiétés qui sont enflammées en amour. Odiciosa, ventura, 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 ventura. Oh, aventure merveilleuse. Sali sincère, notada. Je suis sorti, sans être connu. Un hombre sin nombre, dira Don Juan. Non, c'est une littérature. Donc c'est écrit à peu près à la même époque. C'est de sali sincère, notada. Je sors sans être remarqué. Un hombre sin nombre, je suis un homme sans nom. Écoutez alors le dernier vers qui est extraordinaire. Estanda mia casa sosegada. C'est toute la fermeture. Toute ma maison étant avec le fameux fer et estar, le estar qui est le lieu, la façon dont l'espagnol se tient. Il n'a pas gardé simplement l'être latin, c'est le seul peuple qui est distingué, le fameux stare latin, où on emploie tout le temps être, pour l'essence c'est ser, mais dès qu'il s'agit de se dresser ainsi à l'espagnol sur place, c'est estar. Dès qu'il s'agit de prendre lieu, estanda mia casa sosegada, en repos. Et que Paul Valéry lui-même puisse trouver qu'au moment où le père Cyprien de la Nativité de la Vierge traduit comme il va le faire, il peut être un grand poète, paraît-il, à l'ombre d'une obscure nuit, d'angoisseux amours embrasés, ô l'heureux sort qui me conduit, je sortis sans être avisé, le calme tenant à propos, ma maison en un doux repos. D'après Paul Valéry, qui là, j'aime beaucoup Valéry, hein, mais j'avoue que là, il me sidère. Quand il dit, voilà une traduction parfaite. Il dit, c'est du français parfait. Ah oui, évidemment. C'est du français parfait. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun événement spirituel. Une des choses les plus fantastiques qui ait jamais existé, à savoir Saint-Jean de la Croix, devient, je ne sais pas quoi, moi, une bergerie. Devient Madame de Sévigné, et ma bonne, si vous saviez. Alors, il y a quand même un événement dont je voudrais vous parler en quelques instants, c'est que cette littérature très pauvre va rencontrer par de nouveau un miracle historique. Nous avons parlé de ce miracle historique de la langue italienne qui tout d'un coup rencontre la musique classique de temps, etc. Et ça fait l'opéra italien, l'opéra de Mozart. Comment ici, cette langue espagnole, qui en quelque sorte est sur place, comme toute la musique espagnole, on peut lire à peu près tout Granados, c'est toujours la même chose. Mais même déjà Scarlatti fait toujours la même chose. C'est admirable d'ailleurs. Il y a toute la musique espagnole dans Scarlatti. Mais, bon, Domenico. Hein. Mais il va y avoir une coïncidence extraordinaire. C'est qu'ils vont rencontrer l'Amérique. Et que l'Amérique, c'est quoi ? L'Amérique, c'est la cordillère des Andes. C'est-à-dire une montagne absolument terrible, dans laquelle vous étouffez. Vous étouffez, vous êtes renvoyé vers vous-même, dans laquelle tout le gris, le grillage, la grillade espagnole va prendre toute sa signification, à tel point que toute cette civilisation précolombienne va pouvoir tout entière passer dans la langue espagnole et la donner la plus grande littérature présente. À peu près, j'ai déjà fait le coup à peu près à n'importe qui, vous demandez un peu partout sur la planète quel est le plus grand littérateur vivant, probablement actuellement, grosso modo, pratiquement tout le monde vous répond, Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez est l'œuvre monstrueuse de notre époque, l'automne du patriarche. Bon. Et l'automne du patriarche, le Mama Galio, celui qui est à la fois homme et femme, d'ailleurs. Mais il est pris là-dedans. Et si vous prenez le début, admirablement traduit par Couffon en français, d'ailleurs, bon, c'est admirable, durant la fin de la semaine, écoutez ça, les charognards, rendez compte, c'est le premier mot, ça, s'abattir, c'est bien ça, aucun départ, s'abattir sur les balcons du palais présidentiel. Détruisir à coups de bec le, je l'ai pas fait exprès, le grillage des fenêtres. Remuèrent avec leurs ailes le temps quoi qui part, non, stagnant. Et là, Couffon traduit de façon géniale, il ajoute intramuros, qui ne se trouve pas dans le texte espagnol, mais qui est génial, parce que c'est toute la langue espagnole. Un espagnol est pris dans son corps, il est intramuros, comme un arabe d'ailleurs, quand il parle sa langue, est intramuros. Quand il gueule sur place. Même au téléphone, par exemple. Hein. Il parle au téléphone, seul dans une pièce, il engueule les types à 2000 km, comme ça, sur place, mais muré dans son corps. Et le lundi, au petit jour, la ville se réveilla. De quoi? D'une léthargie de plusieurs siècles. Cette chose qui ne bouge pas, qui est sur place, le sapateado, sous une brise tiède et tendre. Il y a de la tendresse, comme je vous disais tout à l'heure. Mais de quoi? De grands cadavres et de grandeur pourrie. Mais là, l'espagnol est évidemment plus fort, et il peut vous dire, parce qu'il y a un jeu de l'adjectif, justement, du déterminant et du déterminé. L'espagnol peut mettre l'adjectif devant, il va pouvoir vous dire, je ne veux pas tout lire, hein, muerto, d'un cadavre, donc d'un mort, c'est beaucoup plus fort, évidemment, un mort. Hein, grande, l'adjectif est derrière, là, d'un mort grand, ide podrida grande. Et d'une grandeur putride pourrie. Alors vous pouvez aller partout. Vous pouvez aller en Argentine, bien sûr, chez Borges. Vous commencez et vous lisez la bibliothèque de Babel. Et vous avez quoi? El universo. Que universo, bien entendu. Je viens de dire à la latine, universo. Que otros llaman la bibliothèque. Que d'autres appellent la bibliothèque. Le monde est quoi? Le monde est une bibliothèque. Cette bibliothèque, elle est faite de rayons, c'est bien le grillage, le grill absolu. C'est comme pone, des numero indefinido, etc., infinito, des galerias sexangles, ce sont des galeries de tous les côtés. Et il y a un trou de ventilation, mais il est où le trou de ventilation? Dehors? Non, dedans. De ventilación en el medio, dedans. Et il est quoi? Il est cercado. Il est bardé, por barandas parisi. Et tout l'univers est cette bibliothèque. Et où tous les événements vont renvoyer les uns aux autres, mais d'une manière absolument vide. C'est le nada total. Parce que Borges est au fond un pré-prigogénien. C'est quelqu'un pour qui les probabilités font que n'importe quoi peut se passer, mais d'une manière toujours aussi radicalement vaine. De même que pour Gabriel Garcia Marquez, tout est le Mama Galio, évidemment, ça fait la somptuosité de sa littérature. Ça va faire la sécheresse puissante, évidemment, de la littérature borde de Borges, hein, dans lequel les probabilités, c'est vraiment, voilà, on tire des mondes, mais il n'y a rien qui se construit, il n'y a rien qui devient. Nous savons depuis 1950 environ, maintenant, les physiciens nous ont dit que nous n'étions pas dans un monde parménidien, nous sommes dans un monde où il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir.